Radio Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver, Gisèle Cage au micro. À présent, le temps fort de l'actualité de ce jour dans cette édition. Kwilu, la grogne de médecins secoue le secteur de la santé. Face au non-respect des engagements pris par le gouvernement, les médecins ont décidé de croiser le bras. Une grève qui ralentit déjà les activités dans plusieurs établissements de santé publique de la province. Conflit de Kamouina-Sapo, l'appel de victimes, près de 5000 morts selon l'ONU, des milliers de familles endeuillées et plusieurs présumés responsables qui n'ont toujours pas été inquiétés par la justice. Au Kassai, les victimes réclament vérité, justice et réparation. Journée mondiale du Swahili, une langue africaine au rayonnement international. Le Swahili gagne du terrain bien au-delà du continent africain. Quel est son poids aujourd'hui en RDC et dans le monde? Comment renforcer davantage sa promotion et son influence? Le professeur Bagamba Arali, consultant international en sociolinguistique, est l'invité de Radio Okapi. Ne quittez pas notre antenne, cet entretien est à suivre dans un instant. Consultations perturbées, services de santé au ralenti et patients plongés dans l'incertitude. Au Kwilu, la grève de médecins ouvre un nouvel épisode des tensions entre les professionnels de santé et le gouvernement. Depuis ce mardi 7 juillet, plusieurs établissements de santé publique de la province fonctionnent au ralenti à la suite d'un mouvement de grève lancé par le syndicat national de médecins, le SINAMED. Les praticiens dénoncent le non-respect des engagements pris par le gouvernement dans le cadre du cahier de charges signé il y a 3 ans. À travers cette cessation de travail, ils réclament notamment l'amélioration de leurs conditions de travail, la prise en compte de leurs revendications professionnelles et l'application effective des accords conclus avec les autorités. Pour le docteur Lionel Longimba, secrétaire exécutif provincial du SINAMED, cette action est avant tout un moyen de contraindre le gouvernement à honorer ses promesses. On l'écoute.
Le mouvement de grève a été déclenché depuis le 24 juin 2026, cette année, sur toute l'étendue du territoire national, bien sûr. Nous étions sous format polarisation des urgences. Au bout d'une semaine, une évaluation a été encore refaite au niveau de la base, des bureaux provinciaux, ainsi que le bureau national a procédé à la compilation, une fois de plus, des avis et considérations issus des bureaux provinciaux, réservés une suite au mouvement de la grève qui avait débuté, voir dans quel format nous devons procéder. Et à l'instant où nous vous parlons, c'est depuis ce matin, aujourd'hui, ce mandat du 17 juillet à 7h30, que le mouvement de grève, ce mouvement de grève a été durci sous format de radicalisation, c'est-à-dire que hôpitaux sans médecins. Et le Kwilu étant géré aussi par le niveau national, avec tous les desiderata ainsi que les avis récoltés au niveau de la base, nous avons aussi emboîté le même pas que le bureau national. Nous sommes aujourd'hui dans notre phase de radicalisation, c'est-à-dire hôpitaux sans médecins.
Cette grève fait monter l'inquiétude dans la population du Kwilu. De nombreux patients qui dépendent des établissements publics pour leurs soins quotidiens redoutent déjà les effets de cette paralysie. Des observateurs craignent également une aggravation de la situation sanitaire dans la province au moment où la ville de Bandundu est confrontée à plusieurs cas de choléra. Un contexte qui rend l'accès aux soins plus crucial que jamais. En pleine riposte contre Ebola, les revendications sociales de prestataires de santé font planer des incertitudes sur la continuité de soins en Ituri. Si les activités ont repris normalement ce mardi au centre de traitement d'Ebola à Rouampara, près de Bounia, les préoccupations demeurent. La reprise intervient au lendemain d'une manifestation de prestataires de la riposte qui réclament le paiement de leurs arriérés, une amélioration de leur salaire avec les meilleures conditions de travail. Dans plusieurs autres structures sanitaires engagées dans la lutte contre Ebola, des signes de mécontentement persistent. Une situation qui suscite l'inquiétude de la population soucieuse de voir les malades continuer à bénéficier d'une prise en charge adéquate. Les précisions avec Isaac Remoyope.
Alors que l'épidémie d'Ebola continue de progresser en Ituri, des tensions persistent au sein du personnel engagé dans la riposte. Plusieurs prestataires de santé dénoncent le non-paiement de leurs primes, des disparités dans les rémunérations ainsi que des conditions de travail qu'ils jugent difficiles. Selon les dernières données de l'OMS publiées le 6 juillet, la province d'Ituri a déjà enregistré 1561 cas confirmés d'Ebola, dont 506 décès. Après les perturbations enregistrées lundi, les activités ont repris normalement ce mardi matin au centre de traitement d'Ebola de Wampara, situé à une douzaine de kilomètres de Bunia. La veille, plusieurs agents de la surveillance épidémiologique avaient manifesté en érigeant des barricades et en incendiant des pneus pour réclamer leurs droits. Selon plusieurs sources, des discussions sont en cours entre les représentants des prestataires et les responsables de la riposte afin de trouver une solution. À Bunia, plusieurs habitants appellent les deux parties à faire preuve de responsabilité afin que les malades ne soient pas les premières victimes de ces différends. Rappelons que dans un mémorandum adressé au gouverneur de l'Ituri, les prestataires de la riposte ont accordé un délai de 48 heures à la coordination nationale pour répondre à leurs revendications. À défaut, ils menacent de lancer de nouvelles actions de protestation. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Caniveau obstrué, eau stagnante, insalubrité grandissante et risque d'inondation dans la commune d'Ngaliema à Kinshasa. La gestion des déchets continue de poser un sérieux problème. Dans plusieurs quartiers, les ouvrages destinés à l'évacuation des eaux de pluie sont progressivement transformés en dépotoirs à ciel ouvert. Bouteilles en plastique, sachets, cartons, restes alimentaires et autres déchets ménagers s'y accumulent, empêchant le bon écoulement des eaux. À l'approche de la saison des pluies, cette situation alimente les craintes des habitants qui redoutent des inondations, mais aussi la propagation des maladies liées à l'insalubrité. Entre dénonciation de comportements inciviques, appel à la prise de conscience collective et demande d'intervention des autorités compétentes, les riverains n'en peuvent plus. Reportage de Jérémy Baraka.
Bouteilles en plastique, sachets, cartons, restes alimentaires et autres déchets ménagers s'accumulent dans les caniveaux de plusieurs quartiers d'Ngaliema. Conséquence, l'écoulement normal des eaux est entravé. Les mauvaises odeurs se propagent et les risques d'inondation augmentent à mesure que s'approche la saison des pluies.
Environnement n'abîmeskato vandi.
Là où nous vivons, l'environnement doit être propre. Les habitants ont leur part de responsabilité, mais l'État congolais doit également prendre ses responsabilités face à cette situation. Les niveaux de déchets dans ces caniveaux est déjà très élevé. Nous risquons de subir des inondations à cause de son obstruction. Nous souffrons énormément.
Francis Kambala, agent de la brigade d'assainissement de la commune d'Ngaliema, insiste sur la nécessité pour chaque habitant d'adopter des comportements respectueux de l'environnement afin de prévenir les conséquences de l'insalubrité.
La protection environnementale est la responsabilité de tout et chacun. Le message que nous lançons aux Kinois et Kinoises, c'est de s'aider, de respecter les règles de l'assainissement qui nous est obligé. Le contraire de ça, vous allez rencontrer la rigueur de la loi.
Pour beaucoup, seule inaction concertée entre citoyens et autorités permettra de relever durablement les défis de la salubrité urbaine à Kinshasa.
Près de 7 ans après la fin du Kamouinan-Sapou, les plaies restent ouvertes dans l'espace kassaïen. Derrière les chiffres et le bilan officiel, des milliers de familles continuent de porter le deuil de proches tués, disparus ou victimes de graves violations de droits humains. Entre 2016 et 2019, les affrontements entre les forces de sécurité et les miliciens des Kamouinan-Sapou ont fait près de 5000 morts, selon les Nations Unies. Pourtant, de nombreuses victimes dénoncent aujourd'hui l'absence de justice et l'impunité dont bénéficieraient certains auteurs présumés des exactions commises durant cette période. Dans la province du Kassai, l'Association nationale des victimes du Congo hausse le ton et réclame vérité, justice et réparation pour les victimes et leurs familles. Le point avec André Katende, Ngalamulume.
À partir de 2016, les miliciens des Kamouinan-Sapou ont sémé la terreur dans cette province. Meurtres, viols et destruction des biens faisaient partie du quotidien des populations. Aujourd'hui, la région a retrouvé son calme, mais les blessures laissées par la guerre demeurent profondes.
J'ai perdu une femme, elle a été décapitée par la milice de Kamouinan-Sapou. Je suis resté avec 5 enfants. Je suis en train de passer une situation désastreuse.
À Tchikapa, ces témoignages sont nombreux. Les familles familles des victimes tuées réclament justice et réparation. Pour témoigner de sa solidarité envers les familles endeuillées, l'Association nationale des victimes du Congo a organisé les 3 et 4 juillet deux journées de commémoration. Une initiative appuyée par le Fonds de réparation des victimes des violences liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV. Placée sous les thèmes mémoire, vérité, justice et réconciliation, cette commémoration visait à honorer la mémoire des victimes et plaider pour que justice soit faite en leur faveur. C'est ce qu'explique Franck Tchulomba, coordonnateur provincial de l'ANVC. Pour les responsables de l'association, une véritable justice passe par l'identification, les jugements et la condamnation des auteurs des crimes commis durant les conflits. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Des routes à construire, des infrastructures à moderniser, des services sociaux à renforcer. Plusieurs projets d'envergure pourraient bientôt voir le jour en RDC. L'Assemblée nationale a adopté ce lundi 6 projets de loi autorisant la ratification d'accords de financement et de coopération conclus entre la RDC et plusieurs partenaires internationaux. Ces accords concernent des secteurs stratégiques pour le développement du pays, notamment la sécurité, la santé, l'énergie, le développement rural, ainsi que les infrastructures des bases. L'adoption de ce texte ouvre la voie à la mobilisation de nouveaux financements destinés à soutenir différents programmes de modernisation et d'amélioration de conditions de vie des populations. Elle marque également une étape importante dans le renforcement de la coopération entre la RDC et ses partenaires extérieurs pour la réalisation des projets jugés prioritaires par le gouvernement. Les précisions de Grâce Hamzati.
Le premier texte adopté porte sur un accord de coopération en matière de sécurité entre la RDC et la Turquie. Il prévoit un renforcement de la collaboration entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme, les réseaux criminels internationaux, la cybercriminalité, le blanchiment des capitaux, la traite des êtres humains ainsi que le trafic de stupéfiants et d'armes. Les députés ont ensuite adopté 5 autres accords de financement destinés à soutenir plusieurs projets de développement. Ils concernent notamment la construction des complexes hospitaliers dans la nouvelle ville de Kinshasa, le développement rural, l'électrification des zones rurales et périurbaines grâce aux mini-réseaux solaires et hydroélectriques, l'installation d'incubateurs pour les petites et moyennes entreprises agricoles, ainsi que la modernisation et l'extension de l'aéroport international de Luano à Lubumbashi. Les 6 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des députés présents. L'accord de coopération sécuritaire sera transmis au Sénat pour une seconde lecture, tandis que les 5 accords de financement seront envoyés au président de la République en vue de leur promulgation.
Du Maniema au Grand Lac, des institutions africaines aux organisations internationales, le Swahili poursuit son rayonnement bien au-delà des frontières du continent. Ce 7 juillet, le monde célèbre la journée mondiale de la langue Swahili, une langue parlée par des millions de personnes en Afrique et reconnue comme l'une des principales langues de communication du continent. À Kindu, dans la province du Maniema, les linguistes et spécialistes des langues, le professeur Expedi Kabungama Yuka appelle à une plus grande valorisation de ce patrimoine linguistique. Selon lui, le Swahili n'est pas seulement une langue africaine, il s'affirme aujourd'hui comme une langue à portée internationale. Il encourage chacun à renforcer sa maîtrise du Swahili, tant à l'oral qu'à l'écrit, afin de favoriser son rayonnement. Le professeur Expedi Kabungama Yuka s'est confié à Florence Kizalunga.
C'est tout à fait normal qu'une journée soit consacrée à la langue Swahili. Au regard de l'importance de cette langue, il faut savoir que le Swahili est une langue née en Afrique orientale par suite des contacts entre les Arabes et les langues bantoues parlées dans cette partie de notre continent. Alors les transactions commerciales ont fait que il y ait nécessité de communication entre les Arabes et les populations bantoues et la langue Swahili est ainsi née. Non seulement c'est une langue africaine, mais il vaut la peine que cette langue ait toute une journée qui lui soit consacré parce que c'est la langue africaine la plus parlée. Si on prend une à une les langues africaines, celle qui compte le plus grand nombre de locuteurs, c'est le Swahili. Elle n'est pas restée en Afrique seulement, c'est devenu aujourd'hui une langue internationale. C'est une langue de culture, il y a des publications qui sont faites en Swahili, vraiment une langue importante. Conseil à tous, c'est de prendre le Swahili à sa juste valeur. Donc, faut pas croire que c'est une langue des indigènes, c'est une langue internationale à respecter et à prendre comme telle.
Restons dans la province du Maniema où un autre sujet préoccupe cette fois le secteur de l'éducation. À Kindu, l'attente se prolonge pour plus de 1200 enseignants, toujours en quête de leur salaire. Ces professionnels de l'éducation issus d'une cinquantaine d'écoles de la province éducationnelle Maniema 1 dénoncent les difficultés liées à leur processus d'identification à la Rawbank. Ils affirment avoir été transférés vers cette institution bancaire sans en avoir été préalablement informés et s'inquiètent de n'avoir toujours pas perçu leur rémunération du mois de juin. Alors que le mois de juillet est déjà entamé, ces enseignants redoutent l'accumulation des arriérés. De son côté, la Rawbank assure que l'opération d'identification est en cours et devrait être finalisée dans un délai de 2 semaines. Reportage de Florence Kizalunga.
Sous un soleil accablant dans les couloirs et aux différents coins du bâtiment de la Rawbank, des centaines d'enseignants patientent en attendant leur identification. Une situation qu'ils qualifient de nouveau calvaire.
Payé depuis plus de 8 ans chez Tembe, aujourd'hui on nous désaffecte ici à la Rawbank, sans nous aviser. Plus de 2 semaines que nous faisons des va-et-vient ici, sans être enregistrés. Nous interpellons les autorités pour qu'ils s'emparent de la situation, avant que le pire n'arrive.
Pour la Dina Copé, Direction nationale des contrôles de la préparation de la paie des enseignants. Il s'agit d'une simple réforme visant à mieux organiser le paiement des enseignants. Son directeur, Ngandu Manalu Kengu, invite les concernés à garder leur calme.
Auparavant, lorsque les enseignants touchaient les salaires, pouvaient trouver des enseignants payés à la banque Tembe, les autres payés à la Rawbank. Maintenant, pour mettre fin à ces désordres-là, l'État congolais a voulu réunir tous les enseignants d'un établissement à une seule banque pour qu'ils soient payés sur la même liste là et aussi à une banque donnée.
Contacté à ce sujet, les gérants de la Rawbank appellent les enseignants à l'apaisement. Alain Alimansi leur garantit que l'opération d'identification sera finalisée et que la situation sera régularisée dans un délai de moins de 2 semaines. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Mounigi, dans le territoire de Nyiragongo, la fin de l'année scolaire a laissé un goût amer à des centaines d'enfants déjà éprouvés par la guerre et la précarité. Orphelins, déplacés ou issus de familles démunies, plusieurs élèves de l'école primaire et de l'Institut Mounigi n'ont pas pu obtenir leur bulletin scolaire à la clôture de l'année 2025-2026, faute de moyens. Une situation qui illustre la vulnérabilité persistante de nombreux enfants dans cette partie du Nord Kivu. Face à cette réalité, l'ONG Femmes Unies pour le développement endogène et intégral, FUDEI, lance un appel à la solidarité afin de préparer la prochaine rentrée scolaire. Sa coordinatrice Rachel Mounoulou sollicite notamment des dons en fourniture scolaire et en kit d'hygiène destiné aux jeunes filles. Elle s'est confiée à Bernardine Diambou.
Nous demandons à toute personne de leur venir en aide. Beaucoup d'enfants n'ont pas de kit scolaire. Beaucoup de filles ont même présenté leurs besoins à kit hygiénique. Ces enfants sont tellement vulnérables et que n'ont pas pu retirer même leur bulletin à l'école. Donc, c'est vraiment un cri de plaidoyer pour venir en aide ces enfants qui sont dans les besoins. Ces enfants courageux qui veulent étudier, mais ils sont dans l'insuffisance à cause de la vulnérabilité. N'ont pas de cartables, n'ont pas de kit scolaire, que ces enfants ont commencé l'année scolaire d'ici 2 mois. En ayant déjà les kits scolaires, des structures peuvent prendre en charge 5 ou 10 enfants pour payer les dettes de l'année passée, soit les années antérieures, soit supporter l'enfant toute l'année, même au niveau de l'école primaire et secondaire. Donc ce sont des cris d'alarme que nous lançons, vu le courage de ces enfants-là.
Actualité internationale.
En France, l'avenir politique de Marine Le Pen reste au centre de l'actualité judiciaire. La présidente du groupe Rassemblement National a été condamnée en appel ce mardi 7 juillet à une peine d'inéligibilité de 45 mois, dont 30 mois avec sursis. Cette décision lui permet à ces stades de demeurer éligible à l'élection présidentielle de 2027. Toutefois, des incertitudes subsistent autour de sa candidature en raison de sa condamnation à une peine d'un an de prison sous bracelet électronique. Marine Le Pen avait en effet affirmé qu'une telle mesure serait difficilement compatible avec une campagne présidentielle, estimant qu'un candidat à la magistrature suprême devait disposer d'une totale liberté de mouvement.
L'invité. Une langue qui unit des millions de personnes traverse les frontières et porte l'histoire ainsi que les cultures africaines. Le Swahili est à l'honneur ce 7 juillet. Parlé par des dizaines de millions de personnes en Afrique et reconnu par l'UNESCO comme une langue porteuse de dialogue et d'intégration, le Swahili s'impose aujourd'hui comme l'une des langues africaines le plus influentes en République démocratique du Congo, où il figure parmi les 4 langues nationales. Il occupe une place essentielle dans la communication, le commerce, l'éducation et les échanges quotidiens entre les communautés. Quelle est aujourd'hui la place du Swahili en RDC et dans le monde? Quels sont les défis à sa promotion et à sa transmission aux nouvelles générations? Pour en parler, nous recevons le professeur Bagamba Arali, consultant international en sociolinguistique. Il est l'invité de Jean-Claude Lokidile.
Bagamba Arali, bonjour.
Bonjour.
Première question, professeur Bagamba Arali, pourquoi le 7 juillet est-il consacré à la journée mondiale de la langue Swahili?
Oui, comme vous l'avez dit, c'est une langue qui a attiré l'attention de la communauté internationale à cause de sa vocation internationale. C'est la seule langue qui est parlée par presque 300 000 personnes en Afrique. Et bien sûr, on a les langues Fulfulde, mais le Swahili occupe le plus grand nombre de pays, presque 12. Et l'ONU a voulu qu'on puisse attirer l'attention de la communauté africaine sur cette langue.
Le Swahili est aujourd'hui parlé par des dizaines de pays, voire des centaines, des millions de personnes à travers le monde. Selon vous, qu'est-ce qui explique un tel rayonnement?
Le Swahili s'est répandu en Afrique avec le voyage des Arabes, tout ça. Et lorsque la colonisation est arrivée, ils se sont mis sur les traces d'Arabes. Ils n'allaient pas encore inventer une autre langue. Vous verrez donc avec l'entrée de ceux-là qui ont créé l'État indépendant du Congo, est né le Lingala. Mais à l'Est, c'était le Swahili. Et le Belge, ça les a bien servis.
Et en RDC, hein, le Swahili est l'une des 4 langues nationales. Quel rôle, professeur Bagamba Arali, joue-t-il dans la cohésion nationale et dans les échanges entre les communautés, selon vous?
Donc, en l'est de la République démocratique du Congo, le Swahili joue le rôle de langue de contact interethnique. Donc, nous avons beaucoup d'ethnies donc à l'est de la République démocratique du Congo, et le Swahili permet de connecter tout ce monde. Depuis donc avant l'arrivée de Français, le Swahili était déjà là. C'est ainsi que c'est la langue qui nous permet de traverser les limites administratives des ethnies.
Mais ce Swahili n'est pas universel ou parlé de la même façon partout à travers le monde. On entend souvent dire que le Swahili parlé en RDC est différent de celui de la Tanzanie ou du Kenya. Est-ce que c'est une richesse ou un problème? Est-ce qu'il faut se sentir complexé si on ne parle pas le Swahili du Kenya, de la Tanzanie, de Zanzibar par exemple? Parce que on dit que c'est ça le bon Swahili. Voilà.
Non, il ne faut pas se sentir complexé. On dit que le Swahili est né à Zanzibar, ça a grandi à Tanzanie, donc c'est devenu malade au Kenya, donc mort en Ouganda et enterré en République démocratique du Congo. Et cela exprime une vérité sociolinguistique. C'est le fait que toute langue qui occupe un grand espace subit cette question de dialecte. C'est-à-dire que les habitants qui parlent une certaine langue, donc la modifient par moyen de l'interférence linguistique avec la langue qu'ils parlent, la langue va s'accommoder à la couleur locale de langue qui existe. Par exemple, ce que nous parlons dans la rue de Bounia ici, c'est vraiment le pidgin, c'est la langue soudanaise parlée avec les mots de Swahili, parce que avec l'arrivée de Belges, on a forcé la population lindoufone qui travaillait pour la mine à apprendre le Swahili et on n'a pas eu le temps de bien l'apprendre. Et ça s'est fait comme ça pour toutes les langues. L'allemand, c'est le même problème. On a tout le monde, chaque région d'Allemagne a sa langue, mais on a un allemand standard que tout le monde apprend à l'école. Et c'est ça aussi la situation avec le Swahili. Chaque région peut avoir sa Swahili, mais on a un Swahili standard que nous devons apprendre à l'école pour nous unir tous. Et pour toutes les langues nationales, l'État met de moyens donc en position des écoles pour que ces langues soient enseignées à l'école. Mais malheureusement, depuis un beau bout de temps, Il y a même des écoles privées qui n'enseignent pas le swahili et pourtant c'est une infraction pédagogique. La loi cadre dit ceci, vous pouvez ajouter des matières supplémentaires mais pourvu que toute la matière prévue par le programme soit enseignée. Et nous-mêmes, les parents, nous envoyons nos enfants dans des écoles qui n'enseignent pas le swahili. Les inspecteurs laissent cela passer. Donc, il y a une sorte de négligence qui commence à se généraliser, mais qui fait très mal à la jeunesse congolaise.
Nous disons merci, professeur Bagamba Arani.
Merci beaucoup d'avoir rappelé à la communauté nationale cette journée.
Le swahili, langue de communication, d'intégration et des cultures, était au cœur de cet entretien avec le professeur Bagamba Arali, consultant international en sociolinguistique. Une interview réalisée par Jean-Claude Loki Dile. Merci d'avoir vécu cette grande édition avec Radio Okapi, une édition présentée par Gisèle Cage avec Alain Goy à la mise en onde, sous la supervision de Jean Gandou et la coordination d'Élisée Chikota. L'actualité ne s'arrête jamais. Retrouvez-la 24 heures sur 24 sur Radio Okapi.net et nos plateformes numériques.